Vous êtes bien sur l'antenne de Radioactive et comme chaque mardi, on retrouve Vincent Nicole pour Quelle Histoire ? Bonsoir Vincent.
Bonsoir David.
Alors ce soir, vous nous emmenez où ?
Aujourd'hui, je vous parle d'un lieu historique de notre Touraine qui a subi beaucoup de dégâts et qui est passé un peu à l'oubli. Je vous raconte l'histoire d'un château disparu à Amboise.
Quelle histoire ! Lieu historique, personnages et légendes en Touraine. Conté par Vincent Nicole.
Bonjour à tous et bienvenue dans Quelle Histoire ? Aujourd'hui, je vous parle d'un lieu historique de notre Touraine qui a subi les dégâts du temps et qui est passé à l'oubli. Je vous raconte l'histoire d'un château disparu à Amboise. Ne vous inquiétez pas, le château royal d'Amboise ne s'est pas volatilisé. Le Clos Lucé et Château Gaillard non plus. Alors, qu'est-ce que je vous raconte ? Vous avez certainement entendu parler, sur les hauteurs de la ville d'Amboise, de la pagode de Chanteloup. La pagode est ce qu'il nous reste du château de Chanteloup, qui a connu son heure de gloire du temps de Louis XV au XVIIIe siècle. Avant le XVIIIe siècle, on a très peu de traces et de documents concernant Chanteloup. On sait qu'au Moyen-Âge, c'est un fief à la lisière de la forêt d'Amboise avec un nom pittoresque, Cantus Lupi. Chant du loup, Chanteloup. Du temps de Louis XI, il y a un relais de chasse qui sert de ménagerie, où l'on entrepose cerfs, biches et grues trouvées dans le royaume qui viennent accroître le gibier en forêt d'Amboise destiné aux chasses du roi. Les propriétaires du XVIe et XVIIe siècle aménagent une importante bâtisse entourée de beaux jardins réguliers. C'est seulement à partir de 1708 qu'on trouve une trace officielle dans les archives quand un certain Jean Boutroux d'Aubigny achète le domaine de Chanteloup. On pourrait faire plus court, mais la fonction officielle de Jean d'Aubigny est écuyer secrétaire du roi, maison et couronne de France, chevalier secrétaire de leur majesté catholique le roi et la reine d'Espagne. Il est également secrétaire particulier de Marianne de la Trémouille, princesse des Ursins, une diplomate française proche du roi d'Espagne. Jean d'Aubigny constitue une bonne partie de sa fortune en tant que secrétaire à la cour d'Espagne et va faire de Chanteloup un véritable palais qui deviendra sa résidence principale en Touraine en faisant réaliser d'importants travaux d'agrandissement et d'embellissement. En clair, il va complètement reconstruire le château dans le style de l'époque. Bâti en tuffeau, avec toiture mansardée couverte d'ardoises, le château comprend un corps de logis principal encadré par deux pavillons, délimitant une cour d'honneur en U vers le sud. Il fait bâtir une orangerie aussi monumentale que le corps central et d'importants artistes interviennent pour la décoration intérieure, comme le peintre Henri de Favannes. On raconte que d'Aubigny achète Chanteloup pour cette princesse des Ursins, or il n'y a aucun document d'archives qui évoque le nom de la princesse. Mais vu les sommes dépensées, on pourrait penser que la princesse des Ursins ait participé au financement de ce palais, alors qu'elle n'y a certainement jamais mis les pieds. C'est à Chanteloup que Jean Boutroux d'Aubigny décède en 1732, en léguant à sa fille Adélaïde l'ensemble des domaines acquis par son père en Touraine. Mais un homme puissant, à la cour de Louis XV, va s'approprier ce domaine de Chanteloup. En 1761, un homme rachète le domaine, c'est Étienne-François de Choiseul, comte de Stainville et duc de Choiseul. Qui est-il ? C'est l'un des personnages politiques les plus importants du royaume de France au XVIIIe siècle. Le duc de Choiseul a une belle carrière militaire pendant un temps et devient un conseiller important de Louis XV à Versailles. Le roi donne à Choiseul une multitude de titres comme secrétaire d'État aux affaires étrangères, à la guerre et à la marine. Cela fait de lui le principal homme d'État. Il est considéré comme le vice-roi ou le premier ministre de Louis XV. Mais avec le décès de sa précieuse alliée, la marquise de Pompadour, Choiseul doit maintenant faire face à la nouvelle favorite de Louis XV, bien plus féroce envers lui, Jeanne du Barry, qui souhaite l'écarter de la cour. À force de commérages, injures et complots, la jeune Madame du Barry arrive à influencer le roi en sa faveur. Louis XV, perdant sa confiance en son ministre Choiseul, lui retire sa charge de secrétaire d'État et lui ordonne de se retirer avec sa famille dans son domaine de Chanteloup. Exilé par le roi, le duc de Choiseul entreprend de grands travaux qu'il place sous la direction de son architecte Louis-Denis Le Camus. Choiseul souhaite faire de Chanteloup une œuvre monumentale rivalisant avec le faste et la majesté de Versailles. On rajoute des pavillons, rehausse ceux déjà existants et on réunit le tout par de longues colonnades. Des décors, bas-reliefs et statues sont ajoutés sur les façades empruntant les codes de l'architecture antique. Une grille dorée, chef-d'œuvre d'orfèvrerie, à l'époque encadrée par deux petits pavillons, est construite à l'entrée du domaine. Passionné d'agriculture, Choiseul crée également une ferme modèle, attenante au château, avec ses champs de blé, animaux, qui peuvent faire vivre jusqu'à 200 personnes. Chose surprenante, Choiseul aménage un immense parc anglo-chinois qui amène vers une haute pagode, offrant une pointe d'exotisme en Touraine. Banni de la cour sous Louis XV, mais pas seul. Durant son exil, Choiseul n'est pas isolé. Ses fidèles amis et alliés font le chemin pour le voir à Chanteloup. La vie n'est que réception et divertissement. Au long de ses 20 ans d'occupation de Chanteloup par le duc de Choiseul et son cercle familial et amical, le domaine et le château vont symboliser l'art de vivre à la française. Après la mort du duc de Choiseul le 8 mai 1786, le domaine de Chanteloup est vendu au duc de Penthièvre, puis confisqué sous la Révolution. La terre de Chanteloup est achetée par Jean-Antoine Chaptal, en juillet 1802, qui sauve le château en le restaurant. Jean-Antoine Chaptal est un homme politique, nommé ministre de l'Intérieur sous Napoléon Bonaparte, mais aussi un scientifique reconnu pour ses recherches et expériences sur la chimie, l'agriculture et l'industrie. À Chanteloup, il crée une exploitation agricole où il développe l'élevage et construit même une sucrerie où il étudie et développe la culture de la betterave à sucre et son extraction. Entouré de vignerons en Touraine, il met au point le principe de chaptalisation des vins, qui consiste à ajouter du sucre au moût de raisin pour augmenter le degré d'alcool final du vin après fermentation. À Chanteloup, Chaptal mène une vie paisible avec sa compagne, où il a également l'habitude d'y voir ses amis, savants pour la plupart. Malheureusement, Chaptal est ruiné par les dettes de son fils et doit vendre ses biens. Le mobilier du château est vendu et on cherche un repreneur. Il faut noter que depuis la Révolution, des associations de spéculateurs appelées la Bande Noire parcourent la France afin de racheter des monuments d'art précieux, comme les châteaux, afin de les dépecer pour en vendre les matériaux. Faute de repreneur, cette Bande Noire rachète la demeure de Chanteloup en 1823. Le château est entièrement détruit en seulement 8 semaines, à l'exception de la pagode qui est sauvée par le duc Louis-Philippe d'Orléans. Pour anecdote, de nos jours, en traversant l'allée centrale du château de Chenonceau, vous découvrirez deux sphinx installés par le propriétaire du 19e. Ils proviennent du domaine de Chanteloup du temps de Choiseul. Alors, que nous reste-t-il de cette demeure princière aujourd'hui? Eh bien, du domaine de Chanteloup, il nous reste un joli parc où l'on peut encore admirer cette fameuse pagode de 44 mètres de haut qui nous offre un panorama à 360 degrés sur la Loire, la ville et la forêt d'Amboise en accédant à son sommet. Également une grande pièce d'eau en demi-lune prolongée d'un canal, vestige des jardins du 18e. On peut y voir également le petit pavillon du concierge, où l'on peut découvrir une exposition iconographique sur l'histoire du château et de ses jardins. Et au loin, vers la Loire, les deux pavillons de style Louis XVI qui marquaient l'entrée du domaine par la grille dorée. Depuis la fin du XIXe siècle, la famille André a restauré et préserve aujourd'hui encore le site de Chanteloup, soutenu par l'Association des Amis de Chanteloup. Il faut savoir que ce site, classé au monument historique, est ouvert de mai à septembre, où les visiteurs peuvent se balader dans ce charmant parc de 20 hectares et découvrir l'histoire et les derniers vestiges d'un petit Versailles tombé dans l'oubli. Bon, et bien j'espère que ça vous aura éclairé sur la présence de cette pagode chinoise intrigante trônant au beau milieu des châteaux de la Loire. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. Sachez que vous pouvez réécouter cette chronique en podcast sur le site de Radioactive, sur le www.radioactivefm.fr. Encore merci et à bientôt.